Comme chaque mercredi, à partir de 17h30, vous avez rendez-vous avec Lille 1 Info. Lille 1 Info, le magazine consacré à l'université de Lille 1. Une demi-heure au cours de laquelle nous vous proposons des rendez-vous avec les responsables de l'université, avec les chercheurs, avec les étudiants, pour nous parler de leur université, l'université de Lille 1. Aujourd'hui, nous accueillons Sandrine Rousseau, vice-présidente de Lille 1, chargée de la vie étudiante et de l'égalité femmes-hommes. Bonjour Sandrine. Et nous accueillons également Sylvie Vincent, qui est donc responsable de l'accompagnement à la professionnalisation des étudiants en situation de handicap à Lille 1 et à Lille 3. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, eh bien, c'est justement de parler un petit peu des personnes handicapées qui font leurs études à Lille 1, peut-être à Lille 3, ça vous voir si vous voulez déborder. En tout cas, le thème, pour l'instant, on le fixe à l'université de Lille 1, sachant que Lille 1, c'est une des grandes parties de l'université de Lille à venir, peut-être qu'on peut en parler. Donc c'est un projet disons, qui est dans les cartons, de faire de l'université de Lille 1 et des autres universités lilloises un rapprochement pour leur donner une grande force, une synergie, on va dire. Et justement, le problème du handicap, c'est un problème qui touche a priori toutes les universités et des étudiants qui ont donc des difficultés à s'intégrer, mais justement voir comment l'université répond à ces questions matérielles et peut-être aussi psychologiques. Voilà, donc le débat est lancé. Sandrine, donc au niveau de la vice-présidence de l'université, quelles sont les missions et les chantiers sur lesquels vous travaillez dans ce domaine?
Bah, les missions essentielles à venir, c'est d'améliorer le contact avec les lycées pour vraiment convaincre les étudiants lycéens, enfin les lycéens, de devenir étudiants. Pour l'instant, on a quand même une déperdition des personnes après le bac. Et puis, c'est d'améliorer les services rendus aux étudiants une fois qu'ils sont à l'université. Donc, ça passe par un renforcement du relais handicap et par une meilleure visibilité du relais handicap. C'est aussi améliorer la vie des étudiants sur le campus. Et ça, ça va passer l'année prochaine par un audit. Enfin, là, c'est en cours, mais on espère qu'il sera fini avant la fin 2008. Un audit de l'accessibilité du campus. Et là, c'est pas un chantier facile. Et ça passe aussi par l'encouragement, enfin, par améliorer les liens avec les entreprises. Et pour améliorer les liens avec les entreprises, on a Sylvie Vincent, que l'on partage avec Lille 3, pour justement les entreprises aient une visibilité très forte et très simple de l'université, et que quand ils recherchent un personnel en situation de handicap, un futur collaborateur en situation de handicap, eh bien, ils puissent décrocher le téléphone de Sylvie Vincent, qui leur trouvera la perle rare qu'ils attendent tous.
Sylvie Vincent, vous êtes arrivée dans nos studios d'enregistrement, dans notre studio de direct. Première épreuve, est-ce que c'est facile de venir dans le bâtiment de mathématiques, notamment à Radio Campus?
Non, c'est pas très facile. Alors, pour les auditeurs, je suis moi-même en situation, parce que je me déplace en fauteuil roulant électrique. J'avais appelé Sandrine avant parce que je savais où c'était, et passer l'ascenseur, les doubles portes, ici... Un endroit un peu plus étroit pour manœuvrer, c'est vrai que tout seul, vaut mieux être accompagné pour ne pas rester bloqué dans un sas. J'ai assuré quand même le déplacement pour être sûr.
Mais, j'allais dire que c'est courageux, mais peut-être ça va se régler dans les années qui viennent, la facilité de se déplacer.
Ben, moi, j'ai été étudiante à Lille 1 personnellement, donc j'ai vu toutes les avancées qui avaient été faites par rapport à... quelques années déjà. C'est vrai que ça avance beaucoup, mais il faut quand même rester très vigilant surtout les nouveaux aménagements qui tiennent pas forcément compte de ce qui a été fait avant. Donc, des fois on peut retomber sur des passages qui avaient été faits et qui ne le sont plus, ou comme on parlait d'un audit, le fait que par moment Il suffit qu'il y a des nouveaux aménagements et qu'on ne consulte pas ni le relais ou les étudiants, et on s'aperçoit que bah, il faut refaire après parce que ce n'est pas accessible.
Alors, on peut imaginer que quand on construit une nouvelle université, on conçoit dans le plan avec l'architecte ou les gens compétents des aménagements et des formes de facilitation. Quand c'est une université qui est déjà ancienne et qu'on construit éventuellement de nouveaux bâtiments, est-ce que c'est plus difficile? Sandrine Rousseau.
Là, je peux peut-être répondre. Dans les nouveaux bâtiments, c'est facile, mais pourtant, ça n'est pas toujours réalisé. Et alors, dans les anciens bâtiments, c'est particulièrement difficile. Et sur notre campus, ça l'est encore plus parce qu'on a un nombre de bâtiments tout à fait important. Et du coup, quand on parle d'accessibilité aux étudiants en situation de handicap, on parle de l'aménagement de plusieurs dizaines de bâtiments. Et là, tout de suite, les choses prennent une ampleur inédite. Donc c'est très difficile. Rien n'a été prévu dans les bâtiments des années 70 pour accueillir les étudiants, non seulement en fauteuil, parce qu'on a souvent l'image du fauteuil pour le handicap, mais il y a aussi plein d'autres handicaps auditifs, visuels, etc. Et à l'heure actuelle, le campus reste quand même un vrai parcours du combattant pour ces étudiants. Mmh.
Un parcours du combattant, est-ce qu'il y a des dangers particuliers également?
Oui, les voitures. Mmh. Souvent, soit qu'ils se garent un peu n'importe où, pas forcément où ils devraient. La vitesse aussi, parce que par exemple, toute la couronne, on s'aperçoit que maintenant, ils ont fait des zones 30. Or, oui. Les voitures accélèrent en arrivant sur la zone 30. Ils n'ont plus forcément moins le réflexe de freiner. Donc on a par exemple demandé qu'ils remettent des passages piétons vrais, validés. Mmh. Mais il y a quand même des passages en sortant des rues, par exemple, qui ne sont pas si évidents. En plus, on n'a pas toujours une bonne visibilité avec les arbres ou au bruit pour les personnes malvoyantes. Donc ça peut aussi être dangereux.
Est-ce que vous avez des connaissances d'accidents?
Non.
Non.
Non, pas d'accident, mais moi, cette semaine encore, j'ai vu un étudiant malvoyant trébucher sur... on met des espèces de petits blocs de béton sur les trottoirs pour éviter que les voitures s'y garent, et avec la canne, il n'a pas réussi à saisir ce petit bloc de béton, et il a trébuché dessus. Alors, il s'est rattrapé, rien n'est dramatique, mais enfin, ça, pour eux, c'est quelque chose de continuel, de permanent, et je comprends que ce soit insupportable, quoi.
Mmh. Alors, c'est vrai que... Pour quelqu'un qui, je vais dire, a une possibilité de se déplacer normalement, il n'y a pas forcément ni la connaissance, ni peut-être même les règles, enfin l'observation de règles minimales de prudence et de respect aussi, de personnes qui peuvent par hasard se retrouver sur le parcours d'une voiture ou d'un vélo. Voilà.
Ah oui, puis il y a des handicaps qui ne se voient pas. La surdité, par exemple, est un handicap qui ne se voit pas, mais un étudiant en situation de surdité n'entend pas une voiture venir. Donc s'il ne tourne pas la tête pour la voir, il peut très bien prendre la voiture. Mais ça vaut aussi pour les portes qu'on balance comme ça sur les étudiants de derrière. Enfin, ça vaut pour tout un tas de détails. Là en venant avec Sylvie, ne serait-ce que les sas de double porte qu'il y a à peu près dans tous les bâtiments, c'est quelque chose d'infranchissable pour quelqu'un en fauteuil.
Mmh. Alors, si on compare la situation d'une université par rapport à une ville normale, est-ce que c'est plus difficile pour quelqu'un qui a un handicap physique ou... De se déplacer dans une ville ou dans une université?
Bah, ça dépend si c'est quelqu'un qui vit déjà là depuis longtemps ou quelqu'un qui arrive, un étudiant qui arrive d'une autre université ou qui arrive du lycée, qui soit pas forcément de la région comme tout étudiant. Il y a déjà tout le parcours à reconnaître. Nos chemins sont spécifiques. Je vous demanderai par exemple de trouver, ne serait-ce qu'ici à la BU, où est la pente pour les gens en fauteuil.
Mmh.
Ben, vous pouvez faire le tour du bâtiment avant de la trouver, mais c'est pareil en extérieur. Enfin, il faut un moment où on s'approprie l'espace en fonction de son handicap pour pouvoir être à l'aise dedans. Et on ne prend pas tous le même en fonction de son handicap.
Non, à l'inscription, est-ce qu'éventuellement ce serait intéressant, ou peut-être vous le faites, hein, de demander aux étudiants est-ce qu'ils ont un handicap particulier et qu'ils souhaiteraient éventuellement un accompagnement dans les premiers jours?
Alors, c'est fait lors de l'inscription. Dans le formulaire d'inscription, il y a une case à cocher où on doit la cocher quand on est un étudiant en situation de handicap, de maladie invalidante, de longue durée ou de courte durée. Parce que, en fait, il y a tout... Évidemment, toute l'accessibilité physique du campus est un enjeu et ça, on s'y attelle. Mais il y a aussi tout un tas d'autres obstacles pour ces étudiants-là et notamment, très souvent, ils ont des problèmes de santé plus importants que la moyenne. Donc, ils sont souvent malades ou à l'hôpital ou en suivi. Ce qui fait que pour eux, le suivi des cours est compliqué, les examens, le suivi des examens. Et donc, les enseignants ont aussi une part de responsabilité dans l'amélioration de la vie des étudiants. Et par exemple, donner des polycopiés à quelqu'un qui se manifeste auprès des étudiants, c'est déjà un premier geste. Favoriser les examens pour ceux qui ont des problèmes particuliers, c'en est une autre. Enfin, il y a tout un tas de mesures qui ne tiennent pas que des bâtiments. Enfin, le handicap ne se vit pas que dans les bâtiments.
Ces questions des difficultés des étudiants handicapés, est-ce qu'elle est traitée dans le conseil de l'université, dans les rencontres des étudiants dans le cadre de leurs associations, voire de leurs syndicats ?
Dans les débats des syndicats, je ne sais pas, j'imagine que ça en fait partie. Il y a une association qui s'appelle Handifac qui réunit les étudiants en situation de handicap, qui fait beaucoup de travail sur le campus, et un très bon travail par ailleurs. Et puis, évidemment, on en parle en équipe de direction, on en parle quand on fait le contrat quadriennal, où là, on a... Donc, le contrat quadriennal, c'est le contrat que passe l'université tous les 4 ans avec l'État pour savoir quelle va être sa politique dans les 4 prochaines années. Et là, on a vraiment mis l'accent sur le handicap. Et puis, ça se passe aussi avec les directeurs de composantes, dans les CVU, les CA, enfin, toutes les instances de l'université.
Est-ce qu'en France, il existe des préconisations, voire des règlements, des règles pour les établissements universitaires ? Et est-ce qu'on est plutôt en deçà ou en delà, au-delà, Lilin ?
Ça dépend des points. Sur l'accessibilité physique, on n'est pas dans le haut du panier, notamment vis-à-vis des universités nouvelles, où là, on a un retard. Mais par contre, sur l'accueil des étudiants en situation de handicap, là, on est plutôt dans le haut du panier, parce qu'on a, et depuis maintenant un petit moment, un relais handicap qui est là pour vraiment accueillir les étudiants, les accompagner dans les démarches qu'ils doivent faire, et puis pour améliorer les liens avec les directeurs des études, avec les enseignants, avec l'équipe pédagogique. Donc, sur ce plan-là, on est plutôt en avance. C'est pareil, le poste de Sylvie Vincent qui consiste à vraiment favoriser l'insertion des étudiants à la fin de leurs études, à leur trouver des stages, etc. Ça, c'est un emploi qui existe dans très peu d'autres universités. Donc, sur le plan de l'accueil, on est plutôt en avance en France. Mais par contre, on subit la vétusté des bâtiments. Ça, c'est encore le gros point noir, c'est évident.
Alors, cette année, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu les Jeux Olympiques. Et dans ces Jeux Olympiques, il y a eu deux périodes. Il y a eu la période, j'allais dire, des Jeux Olympiques traditionnels et l'époque des Jeux Olympiques paralympiques. Donc, en Chine, ces Jeux Olympiques paralympiques ont pris une très grande place, voire une place équivalente aux Jeux Olympiques traditionnels. Est-ce que quelqu'un qui est handicapé a eu cette même impression, vu de la France, de l'importance accordée aux sportifs handicapés, notamment, pourquoi pas, aux sportifs étudiants, et quelle est leur place dans une université ?
Alors, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Par contre, c'est vrai que nous, on trouve toujours que quand on passe 20 heures sur 24 heures pour les Jeux Olympiques et on passe à peine 2 heures par jour sur 24 pour les Paralympiques, forcément, on trouve toujours que c'est un petit peu moins, qu'on pourrait peut-être en faire un peu plus au niveau de la visibilité. Par contre, au niveau des structures sportives à l'université, soit c'est possible d'intégrer le sport parmi tous les étudiants, mais Handifac a aussi, en accord avec le COSEC, ouvert deux séances de sport qui sont ouverts aux personnes en situation de handicap et à tout adhérent d'Handifac, qu'ils soient extérieurs, qu'ils soient étudiants, lambda. Donc il y a deux séances de musculation qui se passent le lundi et le vendredi soir, et une séance de self-défense qui est faite par une personne non-voyante, donc qui doit s'adapter à pas tout type de personnes en face de lui, qu'ils soient valides, non-valides, et quel que soit le type de handicap pour les personnes non-valides.
Alors, c'est vrai qu'en Chine, à la télévision, toute la période paralympique était traitée à égalité de traitement, et on a vu beaucoup d'émissions consacrées aux problèmes des gens handicapés, et justement l'occasion de cette vitrine pour aller dans le fond des problèmes de santé, des problèmes de la vie en société, et de la vie aussi dans les universités ou dans les milieux professionnels. Bon, là, on a peut-être raté une petite occasion quand même.
Alors c'est vrai que moi j'ai suivi plus le sport que ce qui pouvait être autour, mais c'est vrai qu'en comparaison, bon, moi je suis allée en Chine, j'ai trouvé que c'était très très adapté pour les personnes non-voyantes, mais vraiment j'étais vraiment très impressionnée. Pour les personnes en fauteuil, plus difficile, mais en même temps c'est un pays qui bouge beaucoup et qui va rattraper très très vite, je pense, les écarts. La France bouge aussi, on a aussi plein de choses qui sont capables ici, notamment en termes de scolarisation, donc d'insertion professionnelle ensuite, hein, qu'il n'y a pas forcément dans certains pays. L'école ordinaire est possible, maintenant avec la loi est même obligatoire, hein, depuis la loi du 11 février 2005. Donc les choses avancent.
Donc pour résumer, on est en période de progrès, mais en période de difficulté économique, est-ce compatible et combien de temps?
La loi s'est un peu durcie, entre guillemets, hein, la loi du 11 février 2005. Les pénalités, enfin les contributions, quel que soit le terme qu'on y met, vont aller en augmentant, donc deviennent vraiment dissuasifs et ouvrent un peu le regard. C'est vrai que par rapport à mon poste, on entendait souvent qu'il n'y a pas de personnes handicapées diplômées, or il y en a. Il n'y avait peut-être pas le lien entre les deux. Maintenant, la fonction publique est aussi assujettie, plus seulement la fonction privée. Donc ça ouvre des pistes d'emploi beaucoup plus grandes.
Alors c'est vrai que dans le privé, je pense qu'il y avait des mesures d'accompagnement pour, j'allais dire, des postes un peu protégés, enfin des postes qui bénéficiaient aussi de financement pour compenser un petit peu les problèmes liés, entre guillemets, au moindre rendement de la personne handicapée.
Alors, pas le moindre rendement, mais il y a l'AGFIP pour le privé qui pouvait aider à tout ce qui était amélioration, s'il fallait rendre accessible un bâtiment, apporter des aides spécifiques par type de handicap. Il y a l'équivalent dans la fonction publique, hein, qui s'appelle le FIPHFP, le Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, qui est l'équivalent, alors pas tout à fait les mêmes missions, mais qui est l'équivalent de l'AGFIP.
Voilà, donc on peut estimer qu'une personne intellectuellement normale avec des compétences normales, handicapée ou non, a priori les mêmes chances d'être intégrée.
Alors a priori, c'est vrai que quand on voit les chiffres, quelqu'un qui a un CV en mentionnant le handicap, quand même moins facilement pris, ça c'est les chiffres, mais je pense aussi que les mentalités évoluent. Mais le fait aussi peut-être d'en parler dans les cours, nous on a vu des étudiants en DRH, donc des futurs recruteurs qui n'avaient pas du tout une notion du handicap. Donc c'est vrai que certains nous disaient, comment voulez-vous qu'après on nous ouvre un recrutement alors que même dans nos cursus c'est pas intégré. Donc il y a encore un gros travail au niveau des étudiants aussi et des professionnels, pour un peu dédramatiser tout ce qui est tout ce qui comporte le handicap en général.
Même des contenus pédagogiques, visiblement.
Oui.
Sandrine Rousseau.
Oui, dans le handicap, il y a vraiment toutes sortes de handicaps. Et en général, les entreprises sont sensibilisées au handicap moteur, mais plus difficilement aux autres. Et notamment, un des problèmes, c'est les maladies invalidantes. Mais cependant, là, on a fait faire une étude à l'ILIN pour voir quel était le devenir de nos étudiants en situation de handicap. Et les taux d'insertion sont assez bons. J'ai plus les chiffres en tête, mais ils sont à peu près similaires à ceux des étudiants valides. Donc, ça prouve que tout le travail que l'on fait jusqu'à présent réussit, marche, et c'est quand même, les gens à la fin sont en CDI ou au moins en CDD, mais il y avait une grosse part en CDI, donc c'est bien, c'est des signes positifs.
Et en même temps, pour les personnes handicapées, c'est peut-être encourageant pour qu'elles entreprennent des études.
Alors moi, c'est vraiment, s'il y avait un message que je voulais que je voudrais faire passer, c'est de dire aux étudiants en situation de handicap 1 de venir à l'université, aux lycéens de venir à l'université, et puis aux étudiants en situation de handicap de se manifester auprès du relais handicap qui est au SH1, parce que à partir du moment où on les repère, alors on peut mettre en place tout un système d'adaptation. S'ils restent anonymes dans leur formation, personne ne viendra vers eux et du coup le parcours sera beaucoup plus difficile pour eux, donc vraiment qu'ils n'hésitent pas à se faire connaître.
On s'adresse à qui exactement ?
Ben, je ne sais pas puisque je ne les connais pas.
Vous voulez dire au sein de l'université, au niveau du relais handicap ?
Quand les étudiants veulent se faire connaître.
Ah pardon, je croyais que c'était les étudiants. D'accord. Ben, alors à Cécile Dujardin au relais handicap au SH1. Et sinon, l'adresse mail c'est relais-handicap@unif-lilin.fr. Et là, ils auront une réponse. L'équipe du relais, c'est Cécile Dujardin et Shafiq Attali.
Voilà, donc, est-ce que le problème des personnes handicapées suscite un intérêt particulier et une prise en compte générale, d'ailleurs, au niveau des personnels, des gens chargés de l'organisation et de la planification des équipements, par exemple ? Est-ce qu'on sent quelque chose qui bouge, qui évolue ?
Oui, ça, on peut dire que il y a des fois des personnes qui ne se posent pas de questions, mais à partir du moment où on leur dit qu'il y a un étudiant en situation de handicap dans leur formation, il est quand même très très rare que les gens soient réticents à faire des efforts. En général, on a des gens plein de bonne volonté, mais qui ne connaissent pas forcément non plus ce qu'il y a à faire. C'est vraiment un monde à découvrir. Et moi-même, qui n'y étais pas sensibilisée avant de devenir vice-présidente, j'ai découvert quand même tout un monde et un monde complexe, vraiment.
Alors, on a pu voir fleurir dans les villes et dans les campagnes des places de parking réservées. C'est la partie émergée de l'iceberg ?
C'est la partie émergée, mais nécessaire. Ça, Sylvie pourra peut-être en parler. Parce que du coup, ça rend visible le handicap en permanence où qu'on aille. Donc, c'est déjà quelque chose d'important. Et puis, c'est pas anecdotique. À Lilin, par exemple, on a fait toute une zone à côté du relais handicap de places réservées aux personnes handicapées. Ça permet à la navette qui vient déposer les étudiants d'avoir la place pour se garer, de déposer les étudiants en toute sécurité. Enfin, ce sont des choses qui, finalement, sont très importantes. Ce que je voulais aussi dire, c'est que dans chaque UFR, normalement, il y a un référent vie étudiante et handicap. Donc s'il y a des étudiants en situation de handicap qui ne savent pas où aller, qu'ils demandent le référent vie étudiante et normalement, cette personne les mettra en contact avec le relais.
Alors, c'est vrai que l'université de Lille est quand même, assez portée sur les sciences, la technologie, les sciences humaines, mathématiques, etc. L'université Lille 2, par contre, a des missions par rapport au droit, à la santé. Peut-être l'occasion aussi de traiter ce problème avec Lille 2. Donc, Sylvie Vincent, vous êtes aussi en même temps à Lille 3. Comment ça se passe avec Lille 2, qui est quand même un petit peu au niveau de cette réflexion censée porter le droit et la santé, ou apporter le droit et la santé ?
Question intéressante, mais pas évidente à répondre.
Moi, je viens avec mes questions.
Ouais.
Ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'on travaille beaucoup avec Lille 3 parce qu'il y a une proximité, ne serait-ce que géographique. On est à deux stations de métro, donc c'est très facile de se voir, de se parler. Avec Lille 2, on a un peu moins de contacts, mais Lille 2 fait de réels efforts pour appliquer la charte handicap que le ministère a conçue l'année dernière. Donc ça va se mettre en place et dans le cadre du rapprochement des universités, ça va forcément se mettre en place. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a naturellement un peu moins de contact avec Lille 2.
Mais c'est vrai que Lille 2 pourrait très bien avoir une mission ingénierie sur ces problèmes de handicap, puisque c'est quand même dans ses enseignements.
Oui, mais à Lille 1 aussi, on a des... avec tout ce qui est aménagement, etc., on a aussi des formations qui nous permettent d'avoir des compétences. Et à Lille 3, ils en ont aussi avec l'ergonomie. Donc, ces trois universités, on a chacune des compétences et on les met en commun. On en parle souvent, on a des réunions très souvent, ensemble.
Vers ce grand projet d'université de Lille, voilà. Peut-être. S'il vous restait, vu l'heure qui passe, à formuler des vœux, des souhaits, quels seraient-ils, Sylvie Vincent?
C'est vrai que moi, mon poste est vraiment Lille 1, Lille 3. Enfin, j'ai responsable des deux universités, mm-hmm. Donc j'ai vraiment un poste interuniversitaire. Sur le même poste, c'est pas deux parties communes, c'est le même poste sur les deux. Donc c'est possible. Donc ce serait bien aussi que ça se développe. Alors c'est vrai que dans mon cas, c'était plus aussi pour que le poste soit le plus possible visible de l'entreprise, parce que vu de l'extérieur, les universités, c'est assez compliqué trouver un interlocuteur aussi. Donc moi j'espère que ça se développe, que de plus en plus d'étudiants viennent demander, même s'ils n'ont pas forcément besoin du relais, sachent qu'ils peuvent, s'ils ont un besoin de demande de stage, d'emploi après la sortie ou de job d'été, enfin qu'ils sachent que y a une personne maintenant qui peut les aider, les aiguiller, en tout cas les accompagner.
Voilà, on rappelle quand même un endroit, un numéro, un mail, ce que vous voulez.
Donc mon bureau est au SH1, donc Sylvie Vincent. Donc sylvie.vincent@univ-lille1.fr et le téléphone est le 03 20 05 86 59.
Très bien. Sandrine Rousseau, un vœu pour conclure?
J'en ai plein des vœux, mais disons que j'aimerais bien que les étudiants viennent plus massivement, enfin que les lycéens viennent plus massivement. J'aimerais aussi qu'on arrive à mieux appréhender les handicaps psychologiques, parce que là, pour l'instant, on est un peu dépourvu face à ça. C'est toutes les maladies psychologiques, psychiques sont très difficiles pour nous à appréhender. Donc là, on a vraiment un gros travail encore à faire, mais on va s'y atteler. Avec un peu de bonne volonté, on va réussir.
Bien, merci et bon courage. Bonne rentrée, en tout cas, dans vos locaux ou peut-être chez vous. Pour rentrer chez vous, c'est plus facile que pour venir?
Moi, j'habite dans Lille, donc un peu moins, on va dire, accessible que Villeneuve-d'Ascq. Mais justement, c'était un choix. Pour faire avancer les choses, il faut habiter dans les lieux.
Très bien. Merci. Très bonne journée. Très bonne soirée.
Mmh.